J'ai par exemple écouté tous les disques de la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille, presque, je pense, mis à part la musique celtique. Le reste, j'ai tout écouté, quoi. Pendant 4 ans, j'ai dû prendre, je sais pas, 200 CD par semaine, quoi.
Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. DJ Holt, la passion de la musique, la patience et parfois des ingrédients imprévus. Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch sont allés rencontrer DJ Holt dans son studio, situé dans la cave d'un vieil immeuble marseillais. Il nous dévoile, piste par piste, les secrets d'un single qui fait vibrer les clubs et les foules, Afrotress.
Anybody's guess with his natural hair and his afro dress.
But you can believe one thing and forget the rest.
We know for sure them niggas ain't playing, and we ain't either.
Le rock, la soul, le funk, la musique africaine, etc. C'est une super bibliothèque. Et puis j'écoute tout le temps des disques. J'ai entre 10 et 15 000 vinyles à la maison. Une des catégories musicales et une des approches musicales qui m'a le plus intéressé, c'était le trip-hop dans les années 90. Je me suis dit, c'est possible de faire de la musique dès que j'ai commencé à entendre les premières productions Ninja Tune, Mowax. Un des morceaux qui m'a donné envie de faire des beats, c'est une compilation Mowax qui s'appelait Heads, une compilation que j'avais achetée en 96-97, je crois. Je me suis dit, il y a moyen de faire de la musique un peu abstraite et en même temps qui me touche, et j'avais envie de commencer à composer à partir de ça. Puis un jour, j'ai écouté un rappeur à New York qui s'appelait King Rain, qui avait fait un morceau donc avec le sample de Herbie Hancock. Simple, je connaissais le morceau, mais utilisé comme il avait utilisé, je trouvais ça super intéressant. Et surtout, il avait mélangé ça avec des chœurs gospel, etc., dans son morceau. Et je sais pas pourquoi, je suis allé sur Internet, je suis allé rechercher le morceau de King Rain, et je l'ai trouvé en sortie séparée, en fait, déjà sur Internet. Et donc, du coup, j'ai pu récupérer les voix, les chœurs, etc. C'est les voix, c'est les chœurs qu'il avait rajoutés sur l'instru. Voilà, j'ai changé un peu la tonalité. Et là, en allant chercher les parties séparées, j'ai l'idée de mélanger ça avec le dialogue des What's Prophet, où à l'intérieur, il parle de tout ce qui est afro, le mouvement afro, les tresses, etc. Donc du coup, je décide de commencer à échafauder le morceau comme ça.
Oh yeah,
I'm talking about Snick and us and the Black Panther Party.
Yeah.
Is anyone listening to what I'm saying?
Yeah, man.
Cause it sure looks to me like them niggas ain't playing.
Them niggas ain't playing.
Them niggas ain't playing.
Them niggas ain't playing.
18 billion so far is the claim of damage done by looting and flame. Yet look around, ain't nothing changed.
Nothing's
damn thing.
I sure hope somebody is listening to what I'm saying. Cause it sure looks to me like them niggas ain't playing.
Them niggas ain't playing.
Them niggas ain't playing.
Them niggas sure ain't playing.
C'est un discours identitaire pro-black.
This now black generation is gonna be free. Just you try and stop them and for sure you.
J'utilise souvent des gimmicks dans les discours, que ce soit dans les morceaux hip-hop ou dans les morceaux de slam avec les slameurs avec qui je travaille. Je prends souvent des morceaux de voix et j'en fais des gimmicks en les découpant et en les séquençant, quoi. Et pourquoi ? Parce que le rythme, il y a aussi le rythme et la façon de dire les choses et les mots qui claquent. Il y a ça aussi, hein, il y a un côté musical dans, dans le discours qui m'intéresse.
Them niggas ain't playing.
Them niggas ain't playing.
Them niggas ain't playing.
Ça fait penser aussi à Sun Ra, hein, qui faisait parler d'autres personnes. Par exemple, là, j'ai un exemple de sample de Sun Ra que je peux utiliser dans Afrotress. Et donc, c'est tiré d'un album de Sun Ra, c'est Strange World. Après, il faut faire attention que Afrotress, comme il est dans l'album Phantom, c'est un morceau que j'ai joué en live. Hein. Tout l'album Phantom est un album live, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un morceau que j'ai retouché en studio. Ce sont des enregistrements que j'ai fait en live, c'est-à-dire dans une soirée ou dans un festival, je ne m'en souviens plus. Je l'ai enregistré et donc il est sorti comme ça. Ma posture, ce n'est plus la posture d'un DJ, puisque là, je suis sur scène. J'ai mon logiciel live où j'ai tous mes sons sont sortis séparés. C'est-à-dire qu'on va les, comme là, vous venez d'écouter des voix, on va écouter le rythme, le shaker, le petit œuf, le shaker numéro 2, un clic. Donc en fait, je fais mon morceau comme je l'entends dans ma tête. La vitesse aussi peut varier, je peux le jouer un peu plus rapidement aussi, plus 2 ou moins 2 BPM par rapport au morceau que je vais jouer avant et aussi par rapport au public, puisque faut pas oublier que je suis en live et que je peux avoir une réaction de gens qui sont plutôt scotchés par la musique ou des gens qui sont déjà dans une sorte de move, de groove et qui sont en train de bouger. Et là, du coup, je peux peut-être faire une version plus épurée, mais peut-être plus percussive. Afrotress, par exemple, le dialogue, je l'envoie toujours à un moment donné. Mais par contre, la structure du morceau, comment ça démarre, etc., c'est jamais pareil. Pourquoi ? C'est pour jouer mon morceau in extenso comme il est dans l'album. Je fais play, je le mets dans live et puis je fais le mec qui fait du live, quoi. Parce que c'est aussi ça aussi qui m'intéresse, c'est d'être excité par mes morceaux que je joue en live, quoi. Afrotress, je dois avoir... sans mentir, 27, 28 versions, je crois, qui sont toutes différentes. J'ai même composé des samples que je joue pas tout le temps, qui sont pas du tout dans le morceau de l'album, mais que je joue en live, par contre. Donc celui-là, par exemple. Donc ça, c'est une nappe que j'ai fait avec un synthé et que je joue de temps en temps à la fin du morceau pour sortir du morceau, par exemple. Il y a deux nappes que j'ai faites, il y a ça. Voilà, et puis il y a celle-là de nappe aussi que j'ai faite. Qui me permet souvent de faire les transitions entre deux morceaux que je joue assez souvent. Quand on fait ce genre de musique, je veux dire, on est quand même là pour surprendre les gens. Mais moi, je pense que c'est les accidents les plus intéressants dans la musique. La basse avec le sample de Herbie Hancock, tu vois, c'est sur la première partie du sample ça marche, la deuxième partie ça marche pas du tout, quoi. Mais c'est pas grave. C'est juste que ça met mal à l'aise un musicien un petit peu traditionnel, quoi. Mais moi, pour moi, ça me dérange pas. Ce que je fais pour la plupart de mes morceaux en live et pour la production, je fais venir donc un gars qui fait du caron, bas ou haut, et Nasser Soltani, qui est un percussionniste avec qui je bosse depuis des années, qui fait plutôt de la percussion. Et donc du coup, je leur fais faire des breakbeats. Ça, c'est un caron avec une caisse claire. Je les fais jouer sur un tempo, le tempo du morceau. Afrotress, un morceau que j'ai mis à 104 BPM. Et donc, je les ai fait jouer avec 2-3 éléments pour les inspirer, mais pas trop. Après, à moi de faire ma salade avec ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai enregistré plein de loops avec eux. Donc, j'appelle ça les Afro-loops, puisque c'est Afrotress. Donc, par exemple... Par exemple. Donc là, j'ai fait une deuxième loop avec, donc, pareil, le même système. Ce qui est super avec ça, c'est que je me retrouve avec des beats et des breakbeats qui tournent sur des fois sur 32 mesures où j'ai rien à faire, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ça joue nickel et moi, ça me permet d'avoir une rythmique qui vit sur mon morceau pendant le live. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi des boucles de basse sur ce morceau-là. Donc il y a celle-là, par exemple. Il y a celle-là aussi. Comme aujourd'hui les économies sont trop compliquées pour avoir des lives avec quatre musiciens, je l'ai testé depuis des années. Je ne fais pas ça pour ne pas avoir des musiciens sur scène, bien au contraire, mais je fais ça aussi parce que ça me botte d'avoir de la matière musicale, etc. Après, je trouve que des fois, c'est un peu gâché de se retrouver sur une grosse scène tout seul avec son ordinateur, sa carte son. Je trouve ça un peu gâché d'avoir autant d'espace et de ne pas avoir des musiciens avec moi sur scène, quoi. Mais ça m'arrive aujourd'hui pour des raisons économiques, surtout. Il y a les voix gospel aussi que j'avais enregistrées.
Ooh, Lordy.
Ça, c'est des voix que j'avais pris sur des disques de gospel pur. Voilà, ça, c'est des virgules, on va dire, qui me permettent, dans les morceaux aussi, de donner une respiration. Et puis le gospel, c'est pas non plus... il arrive pas là par hasard, quoi. C'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup, quoi. J'écoute beaucoup de gospel, j'ai beaucoup écouté de choses, des B.C. Smith, etc. Donc, c'est ma culture musicale, on va dire, grâce à mes parents, quoi.
Save your mama's soul, 'cause I need a little sugar in my bowl. Doggone it, I need some sugar in my bowl. I need a little.
J'ai repris la défense des minorités ou des gens. Je sentais que ça allait être plus compliqué pour eux d'être considérés comme des humains que les autres, quoi. Mais je sais pas pourquoi. C'est de tout petit, j'ai toujours été comme ça, quoi. Voilà, mes parents ont toujours écouté ce genre de musique à la maison, donc c'est quelque chose que voilà qui m'a toujours qui est là, quoi.
I need a little steamy on my flow. Maybe I can fix things up so they'll go.
Ouais, mon père était docker au port de Marseille, ma mère secrétaire de direction. Ils étaient passionnés de danse et de musique. Voilà. Et puis mon père a été DJ, il faisait le samedi soir et le dimanche après-midi pendant des années dans un club à Marseille quand il avait entre 20 et 20, 28 ans, quoi. C'est pas que j'ai baigné dedans, c'est que mes parents, toutes les semaines, m'amenaient à aller acheter des disques vinyles, un magasin qui s'appelait Montgrand à Marseille, qui était à la rue Montgrand, et j'allais avec eux. Donc du coup, j'achetais moi aussi mon petit 45 tours, mon petit album, etc., quoi. C'est vrai qu'à la maison, on écoutait ça, quoi. On écoutait Otis Redding, Léo Ferré, puis aussi James Brown. Je me souviens de le Sex Machine, par exemple. Je sais que la version longue, je l'ai écoutée, je devais avoir même pas 10 ans, quoi. Parce que quand j'étais résident au trolleybus entre 94 et 99, je faisais des sets qui faisaient quand même entre 5 et 8 heures d'affilée. Et je jouais environ entre 1 heure et 2 heures de James Brown à chaque fois. À chaque fois, j'allais chercher des versions live un peu différentes, inédites, pour arriver justement à certaines fois d'avoir des dance floor comme ça, dans une sorte de trance funk. J'ai toujours été là-dedans, je ne peux pas savoir pourquoi. Je suis pas mal allé aux États-Unis, puis c'est vrai qu'il y a eu ces voyages en Afrique aussi, mais c'était plus tardif quand même. L'Afrique m'a juste amené à justement être peut-être un peu plus trance, un peu plus dans mes productions, tu vois. Mais... Pour les samples et le clearing, avec les Troublemakers, on était obligés, alors pas forcément dans le premier album, parce que dans le premier album, il y a des samples qui n'ont pas été clearés et qui sont passés avec elle. Par contre, sur l'album avec Blue Note, il y a quelques samples dans les morceaux, ça on a tout clearé quoi. On était obligé, là tu es obligé. Le Get Me Some de Stud, tu as John Barry qui a 60% du morceau, et tu as James qui a 20% du morceau. On a même filé des thunes à Philippe Garrel, tu vois. Un droit de citation, etc. Tu es obligé. John Barry, tu es obligé de clairer les violons. Il y a des morceaux carrément, on a dû les changer tellement le sample était cher. Et c'était injustifié. Mais par exemple, sur le morceau d'introduction de l'album, de Blue Note, sur Expressway, on avait pris un discours au début du morceau d'une chanteuse, je m'en souviens plus du nom. Je crois que c'était Caroline Anderson, quelque chose comme ça.
My friend is losing his mind for fear of going insane. Because no matter how down he is, there is still room below. His is no tragedy.
Voilà, dans la version de l'album qui sort sur Blue Note, il n'y a pas la voix. Quoi. Et pour moi, c'était vraiment une souffrance quand Blue Note nous a dit « Ouais, mais attendez les gars, là, il faut sortir 20 000 euros pour avoir la 1 minute 30 de la voix. » On avait du coup viré la voix. Du coup, on se retrouve avec l'intro de l'album qui est bizarre, quoi. Tu vois, c'est genre des bruits, bon, ça fonctionne. Mais voilà. Par exemple, Afro Trace, oui, c'est l'exemple du morceau où si je me fais choper, je morfle. Là, le sample de Herbie Hancock, je ne l'ai pas clearé. Hein. Je ne l'ai pas clearé parce que tu ne peux pas le clearer. Si tu demandes à le clearer, il va te demander une fortune. Tu marques droit exclusif réservé. Tu es moins emmerdé, mais tu peux être emmerdé de toute façon. Je risque pas grand-chose, quoi. J'ai changé la tonalité. Tu vois, donc voilà, tu vois, j'ai fait 2-3 trucs qui me permettent de pas être emmerdé si je me fais attaquer. Mais si Herbie Hancock entend mon morceau qui veut m'attaquer, il m'attaque et puis je morfle, tu vois. Mais là, c'est un risque, oui, c'est un risque que j'ai pris. Qui m'arrive, pas me mettre en prison. Au contraire, ça va faire parler de l'album, mais j'en vendrai plus. Afro Tress, c'est un morceau. Bah déjà, je pense qu'il résume pas mal l'esprit de l'album de Phantom. C'est-à-dire, il y a un côté assez libre, trans un petit peu, parce qu'il est quand même. Il imprime. Il y a un pied presque house sur le morceau. En lacé aussi, il y a quelque chose qui me plaisait aussi dans ce mot Tress. Ça montre bien aussi mon travail qui n'est pas forcément régulier mais qui essaye justement de mélanger un petit peu mes connaissances musicales et aussi donc des choses qui m'inspirent ou qui me plaisent depuis des années quoi. Donc ça c'est pas mal d'ambiance aussi comme ça que j'enregistre. Il y a ce son là par exemple et puis il y a un autre son aussi que je mets souvent dans mes morceaux qui est un son qui s'appelle Tonnerre. Et il est là. À Madagascar, j'y suis allé aussi pour enregistrer un musicien que j'adorais, là, qui jouait des percus, qu'il fabriquait lui-même, dans ce genre de plage que j'appelle tonnerre, parce que c'est des tambours qui sont à l'envers, avec des fils de fer dessous. Et en les bougeant, en fait, ça fait une sorte de bruit de tonnerre. Et donc voilà, ce genre d'ambiance, comme les calebasses d'avant, comme c'est tout ce truc-là, j'en ai enregistré vraiment beaucoup et que je mets dans mes morceaux en live et dans les productions. J'aime bien avoir de la matière derrière, comme je peux enregistrer, par exemple, en Syrie. J'ai beaucoup enregistré dans les catacombes. Souvent, j'aimais bien enregistrer des sons. Alors, ça ne s'entend pas forcément, mais dans Afro 13, par exemple, il y a la calebasse, il y a le tonnerre. Pour moi, c'est aussi une façon, comme tu disais, d'humaniser un petit peu mes productions, en vrai.
arteradio.com.
Dans ma vie, j'aime bien le son de le murmure de la ville. Ouais. Ça, j'aime bien. Je vis en plein centre-ville et c'est vrai que j'aime beaucoup le son de la ville la nuit ou même la journée de ma terrasse que j'enregistre régulièrement d'ailleurs pour mettre dans mes compositions.